Bonne et heureuse année, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide pendant toute cette année à vivre les choses selon l'esprit et non selon la chair. Amen, amen. Je voudrais que nous fassions une lecture maintenant dans Jean chapitre 5, verset 36, s'il vous plaît. Jean chapitre 5 et verset 36. C'est un message spécial pour commencer l'année. Prenez cela comme un message prophétique, comme quelque chose que Dieu veut pour son Église aujourd'hui. Jean, chapitre 5, verset 36. Jésus dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, de Jean-Baptiste. En effet, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, me rendent témoignage, attestant que le Père m'a envoyé. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Juste avant que Jésus ne soit présenté au peuple par Jean-Baptiste, eh bien, le plus spirituel de tous les hommes qui étaient sur la terre, c'était Jean-Baptiste. Hein? Jésus, d'ailleurs, il rend un témoignage de lui, on trouve ça dans Luc, chapitre 7, verset 26, je vous lis cela. Écoutez bien. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et faites attention à ce qu'il dit là, il dit, tout le peuple qui l'avait écouté et les collecteurs des taxes avaient justifié Dieu en recevant le baptême de Jean. Mais les pharisiens, c'est-à-dire les religieux, les spécialistes de la loi, en ne recevant pas de lui le baptême, avaient rejeté les décisions de Dieu à leur égard. C'est très très important cela, n'est-ce pas ? C'est très important. Où est-ce qu'on en est dans la prophétie en ce qui concerne la deuxième venue de Jésus? L'esprit d'Élie, qui était sur Jean-Baptiste, est revenu comme cela avait été annoncé dans Malachie au chapitre 3 et au verset 23. On va le lire ensemble, Malachie chapitre 3. « Je vous envoie Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. Il ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. » Voilà, mes frères et sœurs, l'esprit d'Élie qui était sur Jean-Baptiste, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, pour eux, avant que Jésus arrive la première fois, juste avant le jour. Mais voilà, il nous a dit, c'est juste avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Quand l'esprit d'Élie est venu en Jean-Baptiste, c'était afin qu'il soit le précurseur de la première venue de Jésus. Jean-Baptiste est venu pour annoncer la première venue de Jésus, la venue du Messie souffrant. Et il a ramené le cœur des pères aux enfants, selon ce qui est écrit dans Malachie 3, 24. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est une symbolique. Les pères, dans Malachie 3, 24, symbolisent les anciens d'Israël, les vieux, ceux de la vieille religion. Les anciens ont été ramenés vers les fils, c'est-à-dire les fils de Malachie 3, 24, là, symbolisent l'Église naissante. Les pères, les vieux croyant dans la loi de Moïse, établie là depuis longtemps, n'est-ce pas? Tout à coup, leur cœur a été amené jusque à ces jeunes, cette église jeune, naissante, n'est-ce pas, les fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très peu de religieux ont vraiment écouté Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Dans ce temps-là, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas cru, ils n'ont pas reçu son baptême. Ça, c'était le point, n'est-ce pas, number one de Jean-Baptiste. D'ailleurs, on ne l'appelle pas Jean le précurseur de Jésus, on l'appelle Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'est son baptême qui choquait, hein, ça choquait. Élie vient avec son baptême. Et dans Luc 7, 30, en ne recevant pas son baptême, c'est écrit, ils ont rejeté les décisions de Dieu à leur égard, ces gens-là, n'est-ce pas? Ils ont rejeté les décisions que Dieu avait à leur égard, ils les ont rejetées. C'est eux qui ont fait ça. Jésus est venu à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a présenté Jésus, le Messie. Jésus est venu donc une première fois pour souffrir à notre place, à la croix. Vous savez ces choses, je ne vais pas vous enseigner en détail ces choses parce que vous les connaissez, vous qui venez sur Révélation Bible. Et les spécialistes des Écritures de l'époque ne l'ont pas reçu parce qu'ils avaient une mauvaise connaissance des Écritures. Ils disaient d'eux-mêmes qu'ils étaient les spécialistes de la loi, mais en réalité, ils connaissaient mal les Écritures. Ils comprenaient rien du tout, ils n'avaient pas l'esprit de prophétie, ils étaient aveuglés, ils se vantaient d'être sages, mais en réalité, ils étaient fous. Ils avaient parmi eux Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, Emmanuel, Dieu parmi eux, et ils ne l'ont pas reçu parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Ils ignoraient que le Messie viendrait en deux fois. Pourtant, c'est clairement écrit dans la Bible. Clairement écrit, vous pouvez le lire. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien, parce que nous en sommes arrivés à la veille de la deuxième venue de Jésus. Et les religieux d'aujourd'hui commettent exactement la même erreur que les religieux qui vivaient lors de la première venue de Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus parce qu'ils n'ont pas reçu le précurseur. Ils ignorent que Jésus ne reviendra pas avant que soit donné un signe, qu'il y ait un précurseur. Ils ne savent pas que l'esprit d'Élie est revenu dans notre temps pour préparer le chemin du Messie de sa deuxième venue. Ils ne le savent pas, ils l'ignorent, ils veulent l'ignorer. L'esprit d'Élie est revenu dans un homme, mais ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu un bonhomme, un peu chauve, pas très grand, qui était là en train de prêcher comme tous les autres, n'est-ce pas? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a de spécial? Pour qui il se prend celui-là de venir nous dire que notre baptême n'est pas correct? Et l'esprit d'Élie est revenu pour ramener cette fois le cœur des fils vers leur père, selon Malachie 3:24. Vous voyez, deux fois. D'abord, c'est les pères vers les fils, ensuite les fils vers leur père. Qu'est-ce que ça signifie? Les fils représentent l'Église d'aujourd'hui. Les gens, ces gens-là, nés de nouveau, qui doivent revenir à ce qu'était l'Église du début, c'est-à-dire au Père fondateur, Jacques, Pierre et les autres apôtres, revenir à l'enseignement des apôtres. Jamais les apôtres ont baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Esprit d'Élie, dans William Marion Branham, l'Esprit d'Élie, là, était en train de leur dire, voilà le baptême, et maintenant c'est comme ça que vous devez être baptisé. Mais ils ont rejeté cela, les pasteurs, les spécialistes des Écritures d'aujourd'hui, ne recevant pas le baptême restauré par Élie, ont rejeté les décisions de Dieu à leur égard, je vous le dis aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'an 2012, parce que c'est important. Et voilà où ils se trouvent, ces pasteurs et ces autres spécialistes de la loi, exactement où se trouvaient les pharisiens et les spécialistes de la loi de l'époque quand Jésus est venu la première fois. Alors que Jésus est en train de venir, il est tout près de venir, tout près d'arriver une seconde fois, eh bien les spécialistes de la religion ont commis la même erreur, ils ont rejeté le précurseur avec son baptême. Ils ont commis la même erreur que les pharisiens et les spécialistes de la loi lors de la première venue de Jésus, précédée par l'Esprit d'Élie. Mes frères et sœurs, ils ne comprennent pas les Écritures. Ils croient trouver en elles le salut, mais ils ne comprennent pas ce qu'elle leur dit. Pourtant, l'Écriture annonce qu'avant la deuxième venue de Jésus, un signal serait donné. 1 Thessaloniciens 4:16. Et ils ne connaissent pas cela. Ils ne savent pas qu'il y a un signal qui doit être donné. Ensuite, qu'il y a un archange qui doit parler, une voix qui doit se faire entendre. Ils ne le connaissent pas. Quand Élie est venu la première fois, il a fait énormément de grands miracles. Quand l'esprit d'Élie est venu la deuxième fois en Élysée, il a fait aussi de grands miracles. Par contre, il n'en a pas fait la troisième fois quand il est venu dans cet homme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'était à Jésus de faire les miracles maintenant. Mais quand il revient pour la quatrième fois, l'esprit d'Élie fait des miracles. Là, quand il est revenu, ce petit homme du Kentucky, William Marion Branham, des milliers de miracles ont été vus. Il y a des témoins, des milliers de témoins. Mon papa, T.L. Osborne, a vu cet homme accomplir des miracles au nom de Jésus. C'était absolument phénoménal. Oral Roberts l'a vu aussi. Beaucoup d'autres l'ont vu, ont été inspirés. Leur foi a décuplé et ils sont devenus ces ministres miracles que nous connaissons tous aujourd'hui dans le milieu évangélique et particulièrement charismatique. Ils ont reçu ce ministère de miracles à ce moment-là. Ces deux grands hommes de Dieu en particulier, bien d'autres encore. Élie est venu, mes frères et sœurs, au siècle passé. Il est venu. Et nous avons mis sa biographie en ligne sur Révélation Bible afin que vous le sachiez, afin que vous puissiez comprendre, afin que vous puissiez lire, afin que vous puissiez savoir, parce que c'est important de savoir qui est ce cher frère William Marion Branham. Arrêtez d'écouter ce que racontent ces religieux et ces spécialistes des Écritures qui n'ont pas compris. Si vous aviez vécu du temps de Jean-Baptiste, vous auriez suivi qui? Les religieux pomponnés qui étaient au temple, ou est-ce que vous auriez suivi ce fou qui hurlait dans le Jourdain là-bas avec son habit de bête, de peau de bête qui vous fait des sauterelles? Vous auriez suivi qui? Ah, vous allez tous dire on aurait suivi Jean-Baptiste. Eh bien, c'est pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, qui est-ce que vous écoutez? De quel baptême êtes-vous baptisé? Voyez-vous? À la communauté du sanctuaire, nous avons reçu son message. Nous avons reçu le message de ce prophète. Nous avons reçu la prêtrise du ministère de l'archange de 1 Thessaloniciens 4:16. C'est-à-dire que nous avons cette voix. Nous sommes cette voix qui parle. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a d'autres. Mais nous avons reçu. Nous l'avons reçu. Et nous ouvrons porte après porte les mystères que Dieu avait tenus cachés. Beaucoup de choses ont été oubliées. Qui sont dans la parole de Dieu, mais sont oubliés. Ce livre d'Enoch, c'est une des dernières choses que Dieu nous a données, et nous avons ouvert la porte, cette connaissance est maintenant à votre portée. Le baptême pour les morts et toutes ces choses que les églises rejettent, disant c'est diabolique, ou alors c'est les mormons. Mais ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'un mormon, ils ne connaissent rien du tout au sujet des mormons. Ils répètent simplement ce que les journaux racontent, ou ce qu'un vieux débile a raconté. Voilà, les mormons sont, n'est-ce pas, des gens qui ont plusieurs femmes. Mais c'est faux! Ils racontent n'importe quoi. Arrêtez d'écouter ces gens. Renseignez-vous par vous-même. Faites-vous une opinion vous-même devant Dieu dans les Écritures. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir mormon, mais je dis que beaucoup de gens racontent des choses simplement parce qu'ils les ont entendues raconter et on connaît pas, ils connaissent même pas l'origine de ce qu'ils sont en train de dire. C'est important de savoir quelle est l'origine. La parole de Dieu doit être l'origine de ce que vous croyez, de ce que vous vivez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous deveniez mormon. Je donne ça simplement comme un exemple pour dire, voilà, ils rejettent le baptême pour les morts disant que c'est un truc de mormon. C'est pas un truc de mormon, c'est dans la Bible. Ils n'en veulent pas. Tant pis, nous le ferons avec l'aide du Seigneur. Nous le ferons et nous en avons déjà fait plus de 60 millions ici au sanctuary. L'ouverture de ces portes est confirmée par des signes, par des miracles en grand nombre dans notre ministère et même une résurrection à Paris en 2011. Gloire à Dieu! Alléluia! L'ordre, c'est de parler, c'est de communiquer, c'est une voix, c'est quelqu'un qui parle. La voix de l'archange, juste après le signal donné, juste après la venue d'Élie, ôtez ce qui fait de l'ombre sur les pierres précieuses de Dieu. Il faut que la lumière vienne là-dessus. La communauté des sanctuaries n'est pas Jésus seul. La communauté du sanctuaire n'est pas branhamiste, n'est pas assemblée de Dieu, n'est pas mormone ou quoi que ce soit. Nous ne sommes rien d'autre que les adorateurs de Jésus-Christ, notre époux bien-aimé, et c'est lui que nous aimons, et c'est lui que nous servons, et c'est lui à lui que nous obéissons jour après jour après jour, comptant sur son aide et son secours pour être ferme jusqu'au bout. Et c'est sa parole que nous vivons, c'est sa parole que nous enseignons. Et lui, eh bien, il la confirme par les signes, les miracles et les prodiges. Alors les gens me disent, ah oui, mais n'est-ce pas, c'est en Afrique. Oui, ah bon, eh bien, il y en a aussi en France des miracles, renseignez-vous. La résurrection l'année passée, c'était pas en Afrique, c'était en France. En 2012, quelque chose de spécial se passe. 2012, c'est fini 2011, c'est 2012. 2012 est placé sous le signe de la marche en avant, de l'action. Au sens, je dirais même militaire, symboliquement parlant. Nous sommes une partie, nous autres ici au château, de l'armée du roi des rois. Nous sommes à la date de la mobilisation, mes frères et sœurs. Une discipline est instaurée en vue de la reconquête des territoires perdus. C'est une remise en ordre avant que Jésus ne vienne sur les nuées, selon sa promesse. Cette remise en ordre ne sera que profitable. Le Seigneur nous a donné autorité sur des territoires que les églises ont délaissés et nous nous tenons devant les portes célestes, repoussant les ennemis derrière leurs portes. Au nom du Seigneur Jésus, c'est une guerre spirituelle et personne ne peut plus s'encombrer au sujet de ces petits problèmes et ces petits machins personnels, de ces manies ou de ces soi-disant impossibilités. Tout est possible à celui qui croit. C'est une guerre spirituelle dans laquelle, c'est étrange, mais c'est une guerre dans laquelle nous nous réfugions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que Jésus est en guerre contre le mal. Et entrer dans cette guerre contre le mal, c'est entrer dans la présence active de Jésus. Et Jésus est notre forteresse. Alléluia. Mes frères et sœurs, la maîtrise, c'est aussi celle de l'intérieur, celle de la communauté, celle de soi-même. Les gens attendent après le gouvernement. Voilà, on va faire des élections en 2012. Qui va nous sauver? C'est pas un homme, c'est pas un président. Le salut va commencer par vous, par votre famille. Vous devez, vous, être sauvés et sauver votre famille. Enseignez vos enfants, montrez un bon exemple. Être vous-même maître afin de pouvoir enseigner dignement ceux qui ont besoin de l'être. Et ainsi, vous allez pouvoir trouver dans la véritable Église de Jésus-Christ le salut dont vous avez besoin. Amen. Ce n'est pas le gouvernement. Ça, c'est des blagues. C'est des blagues. Que chacun de nous soit donc à son poste, faisant ce qu'il doit faire en y mettant de l'amour. En y mettant de l'amour. Attention, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous faisons partie de l'histoire, mes frères et sœurs. Et on doit agir dans le sens de l'histoire créée par Dieu. On doit agir dans le sens de l'histoire écrite par Dieu. Élie doit revenir avant la venue du jour grand et terrible de Dieu. Ce jour grand et terrible, c'est le jour où il va juger. Quand Jean-Baptiste est venu, eh bien le jour grand et terrible n'est pas arrivé. Il fallait qu'il revienne encore une fois. C'est pourquoi Jésus dit, il est déjà venu, mais il doit venir. Occupez-vous premièrement de l'histoire écrite par Dieu et vivez-la. C'est elle que vous devez vivre aujourd'hui, vous. Elle doit être vécue par vous. Et il promet que si vous vivez ce qui est écrit, il promet, voici, je m'occuperai moi-même de vous, de vos affaires personnelles. Je viendrai à votre secours et je vous soutiendrai et je vous guérirai et je vous donnerai l'abondance dont vous avez besoin pour me servir, moi, le seul grand Dieu vivant dont le nom est Jésus. Amen.